Donc, nous continuons nos séries de prédications sur des thèmes de l'islam. Vous avez bien compris que c'est une manière de les visiter, c'est la manière chrétienne dont nous pouvons entendre cela. Donc, un des cinq piliers de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est le pèlerinage. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, Sarah, mais on a beaucoup parlé de chemin. Aujourd'hui, finalement, que s'ouvrait devant toi un chemin, que même tu avais déjà parcouru du chemin. Donc finalement, on peut dire que ce thème du pèlerinage est aussi en lien avec le baptême et avec la vie du chrétien, puisque souvent, on dit que nous sommes en chemin. Le premier à s'être mis en chemin, il est bien connu, et bien d'ailleurs, c'est Abraham, mari de Sarah. Donc tu vois, c'est un peu dans le même... Ça a quelques liens avec toi. Donc, j'ai choisi deux textes pour illustrer ce thème du pèlerinage. Deux textes bien connus. Le premier, donc, c'est l'appel que Dieu fait à Abraham, au chapitre 12 de la Genèse. Et le deuxième, texte très connu également, qui a inspiré les peintres, particulièrement magnifiquement Rembrandt, celui qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs, vous savez. Donc, deux textes pour illustrer ce thème. Le premier, donc, les six premiers versets du chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme, Sarai, et son neveu, Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. Et puis, chapitre 24 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 13. Donc, c'est juste après la mort du Christ, en ce matin de Pâques. Or, ce même jour, deux d'entre eux, c'est-à-dire les disciples, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha, et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y produit ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfié. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision, celle d'un ange, qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, il leur dit, « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit en leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé. Il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen.
Alors, j'aime marcher. J'avoue que cela m'est complètement indispensable. Je marche partout, je marche en ville. C'est après tout la meilleure manière de découvrir ces villes. J'aime marcher à la montagne, au bord de la mer. Peut-être que ce que je préfère, c'est marcher lorsque les montagnes surplombent la mer. C'est pour ça que j'aime tant aller en Corse. C'est presque pour moi la perfection. J'aime marcher quand il fait soleil, mais j'aime marcher également sous la pluie parce que les couleurs ne sont pas les mêmes, le ciel n'est pas le même, donc tout cela est absolument merveilleux. Puis quand on marche, on a le temps de contempler, de regarder. Tout à l'heure, Sarah, ton parrain, te disait qu'il fallait savoir contempler. Ça, j'en suis tout à fait persuadée. Et pour découvrir les choses, il faut savoir contempler. Et lorsqu'on marche, eh bien justement, on a le temps de contempler. Finalement, en réalité, peu de choses peuvent me dissuader de sortir. Je suis vraiment une randonneuse. Mais la randonnée, ce n'est pas exactement le pèlerinage. Ce n'est pas tout à fait similaire. On va essayer de voir ce qui peut les différencier et puis ce qui peut les rapprocher aussi. Pour les protestants que nous sommes, et puis ici on est assez protestants en général, eh bien, en réalité, il n'y a pas de pèlerinage. Certes, nous avons des lieux chargés d'histoire biblique et souvent il y a des voyages organisés en Israël, en Palestine, sur les traces de Paul, etc., etc. Donc on peut découvrir cela, mais on ne peut pas vraiment dire que cela soit des pèlerinages. Certains d'entre nous risquent même d'aller sur les chemins de Compostelle, puisque finalement ce sont des chemins voués au pèlerinage, et puis ils en reviennent toujours chargés d'une expérience spirituelle forte et importante, déjà parce que par les rencontres qu'ils font et par le fait d'avoir marché sur ces chemins. Je ne pense pas du tout d'ailleurs que ce soit les reliques qui sont tout au long de ce chemin qui soient importantes pour les protestants, mais c'est bien là la marche. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a même, en ce moment même, un chemin qui est réhabilité, qui part de la Drôme, du petit village de Poët-Laval, qui va jusqu'au nord de l'Allemagne, qui fait 1600 km. Évidemment, il passe par Genève. C'est un chemin qu'on appelle sur les pas des Huguenots, donc sorte de chemin de randonnée, on n'ose pas parler de pèlerinage, que les protestants peuvent emprunter. En fait, c'est le chemin qu'ont emprunté nos ancêtres protestants lorsqu'ils fuyaient, après particulièrement la révocation de l'édit de Nantes. Ils partaient de France, allaient se réfugier en Suisse, puis au-delà. En fait, c'est une sorte de manière de faire mémoire en chemin et aussi, bien évidemment, de rencontrer d'autres personnes. Parce que même lorsqu'on marche tout seul sur tous ces chemins, que ce soit Compostelle ou bien sur les pas des Huguenots, eh bien, il y a le soir des lieux où on peut se poser et puis partager avec les autres. Et à mon avis, cette dimension est importante. Donc, on voit bien que chez nous, les protestants, point de pèlerinage. Pourtant, on aurait tort de mettre ça de côté, parce que finalement, dans toutes les religions, il y a des pèlerinages. Évidemment, il y a le pèlerinage de la Mecque, mais d'ailleurs, est-ce encore un pèlerinage puisqu'on y va en avion? Mais bon, il y a ce voyage à faire vers ce lieu saint pour les musulmans qu'est la Mecque. Et puis, il y a Rome, Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle pour les chrétiens. Mais il y a bien d'autres pèlerinages. Il y a le Gange pour les hindous. Il y a le pèlerinage de Kailash au Tibet pour la plupart des religions orientales. Kailash est une magnifique montagne qui culmine au Tibet, là, qui est à peu près toute seule, mais enfin, elle est quand même à plus de 6000 mètres. Et tous les bouddhistes sont invités, sont même convoqués pratiquement, à faire le tour de cette montagne, montagne que personne n'a, dont personne n'a encore fait l'ascension, puisque c'est le lieu d'habitation de Shiva. Donc c'est un lieu saint par excellence. Et puis, comme tous les lieux saints, il est chargé aussi. C'est la source de l'Indus. Donc on voit que c'est un lieu très chargé. Dans les religions précolombiennes aussi, il y a des pèlerinages. Et si l'on va un peu plus loin, je pense que dans toutes les religions, on est invité à marcher. Alors, pour diverses raisons, soit pour aller vers des lieux saints, mais dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, il y a une dimension de purification, de régénérescence dans la marche elle-même. Et c'est peut-être cela que j'entends le plus quand je suis invitée à faire des pèlerinages ou à marcher. Parce que, c'est vrai, si ces pèlerinages existent dans toutes les religions, c'est qu'il y a une dimension anthropologique très forte et qu'on ne peut l'évacuer et dire que cela ne sert à rien. C'est vrai aussi du jeûne, mais ça c'est Louis Pernaud qui vous en parlera. À mon avis, si toutes les religions ont des choses en commun, eh bien c'est probablement nous les humains, pour être vraiment humains, peut-être qu'on a besoin de ça. On a besoin certainement de marcher, de nous mettre en route. On pense souvent que les pèlerinages, justement, c'est aller vers un lieu saint. Mais, et là je me rapproche beaucoup plus de cette idée-là. Alors, vous avez entendu, pour les bouddhistes, les hindouistes, il y a une question de régénérescence et de se retrouver, en quelque sorte. Mais être pèlerin, au départ, la racine, l'étymologie du mot pèlerin vient du latin peregrinus, qui signifie l'étranger, l'exilé. C'est cela, être un pèlerin, c'est être étranger, exilé. Et c'est probablement pour ça qu'on appelle ça pèlerinage, parce que les pères de l'Église, au début, disaient, et c'est eux qui ont promu les premiers pèlerinages, les pères de l'Église, donc dans les premiers siècles du christianisme, disaient bien que nous étions tous des étrangers, des exilés sur terre. Nous ne sommes que de passage, en quelque sorte. Notre vraie maison, notre habitation, c'est l'habitation que Dieu nous offre à l'époque, il le situait dans le ciel, et que finalement, sur terre, tout était une manière de passer, et puis tout était éphémère. Nous sommes des étrangers, des exilés sur terre. Je ne sais pas si je suis encore complètement d'accord avec ça, si je me sens étranger, exilé sur terre, mais j'aime cette idée de nous mettre en marche pour devenir étrangers. Étranger à quelque chose, qu'il y a là une certaine rupture. Je ne me mets pas en marche pour faire le tour des reliques, ça vraiment non. Mais je me mets en marche pour me dépasser, pour dépasser quelque chose eh bien, qui a tendance à plutôt m'enfermer. C'est important à mon avis. Je ne me mets pas en marche non plus par souci de contrition, d'expiation, parce que les pèlerinages ont longtemps servi à ça. Eh bien, ça servait à se faire pardonner des fautes, de nos fautes. Je me mets en marche, en quelque sorte, probablement aussi, parce que c'est douloureux de marcher parfois. Hein, ça dépend de ce qu'on fait. Mais si on va de Vézelay à Saint-Jacques-de-Compostelle, je vous assure que quand vous arrivez, vous êtes quand même bien fatigué. Et puis si vous partez de Poitlaval pour faire 1600 km pour aller jusqu'au nord de l'Allemagne, on arrive aussi bien fatigué. On a une de nos paroissiennes qui, juste avant de se marier, il y a 2 ou 3 ans, est partie de Paris pour aller à pied jusqu'à Jérusalem. Eh bien, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils avaient les pieds fortement abîmés. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui nous permet de nous dépasser et qui fait certes, qui peut faire souffrir. Mais ce n'est pas pour ça, en fait, qu'on se met en marche. C'est peut-être pour se dépasser et aussi pour trouver quelque chose qu'on n'a pas le reste du temps. D'abord, je parle de temps, justement, quand on marche, le temps n'a plus la même valeur. Et que dans nos sociétés, s'il y a tant de gens qui repartent en pèlerinage, même des non-croyants d'ailleurs, sur les chemins de Compostelle, on retrouve des gens qui ne croient absolument pas en Dieu, mais qui sont là pour retrouver quelque chose, pour remettre du sens à leur vie. Donc on voit bien que la marche a quelque chose qui nous invite à nous dépasser, et puis marcher ainsi, un peu longtemps, plusieurs jours, parce que le pèlerinage, c'est pas faire le tour du bois de Boulogne à pied ou en courant. Non, le pèlerinage, c'est quitter quand même. Il y a de cela dans le pèlerinage, c'est quitter ses habitudes, accepter d'être eh bien, en danger. Les pèlerins, vous savez, partaient, et déjà au moment dans l'Ancien Testament, ils partaient en chantant des psaumes, ce qu'on appelle les psaumes des montées. Ils avaient besoin de ces prières pour se donner eh bien, de la force. Et d'ailleurs, le livre des psaumes n'est-il pas le livre du pèlerin par excellence? Ce livre des psaumes qui commence par ce magnifique « heureux ». Vous savez, c'est ce qui est traduit dans nos Bibles, « heureux », comme les béatitudes. Eh bien, le psaume commence par « heureux l'homme ». C'est très difficile, je vous l'ai déjà dit, l'hébreu est une langue complexe, avec beaucoup de polysémie, de diverses chances dans les mots. Eh bien, ce heureux, ce ashri, en quelque sorte, il a deux racines. La racine du bonheur, mais il a une autre racine qui est marcher. Il y a un verbe en hébreu, verbe achar, qui veut dire marcher. Comme si le bonheur, c'était quelque chose de dynamique, quelque chose qui nous demandait de quitter nos habitudes et de nous mettre en marche. C'est quelque chose de très important. Alors comme la semaine dernière, bien évidemment, il y a, lorsque je parlais de guerre sainte, je parlais aussi d'une guerre spirituelle, la marche, ça peut aussi se faire de manière spirituelle. Des fois, on peut même la faire de manière statique, mais se mettre en marche dans nos têtes. C'est vrai que quand on le fait physiquement en même temps, ça peut aider, mais on peut très bien... La marche, c'est quelque chose qui nous invite à quitter nos habitudes, à quitter nos vies. Et voilà ce que va faire Abraham. Abraham, qu'on appelle le père des croyants, et dont on a mis sa foi en avant parce qu'il entendait Dieu qui l'appelait et qui lui disait « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Finalement, c'est le premier qui part. Bon, vous me direz, en fait, si on fait attention avant, il y a quand même Adam et Ève qui sont chassés du jardin, donc ils sont invités à marcher aussi. Mais là, c'est de manière tout à fait positive qu'on peut l'entendre. Abraham est le père des croyants et il entend Dieu lorsqu'il lui dit de partir. D'ailleurs, tout au long de la Bible, tout le monde sera en marche. Moïse, qui va mener son peuple 40 ans, dans le désert. Bon, ils vont marcher un peu en rond, mais après, il va falloir qu'ils marchent pour entrer. Les prophètes marchent encore lorsque Dieu les appelle et les envoie à l'autre bout du pays. Le pauvre Jonas, lui, qui est parti, qui devait aller jusqu'à Ninive, vous savez, Jérusalem, Ninive, ça se trouve en Irak, vous voyez que c'est quand même pas la porte à côté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un peu hésité. Et puis, le Christ est tout le temps en chemin, en route. Je ne sais pas si vous avez des moteurs de recherche avec des logiciels bibliques, mais si vous tapez le mot « en chemin », vous verrez que le Christ n'a de cesse d'être en chemin. Et Paul lui-même, le moment de sa conversion, ça se passe alors qu'il est aussi en chemin. Paul, qui est aussi en quelque sorte le modèle du converti, le premier converti au christianisme en tant que modèle, eh bien cela se passe en chemin. Est-ce que cela serait vraiment passé ? Si Paul n'était pas parti, si Paul n'était pas en chemin, est-ce que finalement cette manière de se mettre en route à la fois physiquement et spirituellement, n'est pas le chemin pour pouvoir se convertir? Et d'ailleurs aujourd'hui, Sarah, tu as déjà fait du chemin, je t'ai dit qu'il y avait encore un chemin, mais aujourd'hui tu as déjà fait du chemin, peut-être que le signe pour nous convertir, pour avancer, eh bien, c'est d'accepter de quitter, accepter de partir. De partir parce que Abraham, on peut faire de nombreuses lectures d'Abraham, de ce texte. Et puis, on a bien mis en avant, en effet, Abraham comme père des croyants. Mais il y a d'autres choses que l'on peut entendre aussi. se va, va, mais en fait, en hébreu, c'est le l'air, l'éra. Va vers toi, ou va quant à toi. Comme si, lorsque Dieu l'envoie, il l'envoie en effet vers autre chose, mais cette autre chose va lui permettre, en quelque sorte, de se retrouver lui-même. Et pour Abraham, tout va s'ouvrir à partir du moment où il se met en route. Parce qu'Abraham est âgé, et sa femme aussi. On nous a dit un peu avant qu'elle était stérile. Et donc, bizarrement, le fait qu'Abraham se mette en route, et tout le temps en route, parce que vous savez, j'ai lu les 6 premiers versets. Mais à partir du verset 12, à peine il est arrivé, Abraham, qu'il y a une famine, il faut qu'il reparte. Alors, il est tout le temps en marche. Et si vous faites attention, essayez de faire l'itinéraire d'Abraham, il est tout le temps en marche. Cette marche, cette manière d'aller vers lui-même, c'est la lecture la plus, ce qu'on appelle psychologisante, mais qui parfois est opposée à une autre lecture, qui est une lecture plus littéraire, mais à mon avis, les deux vont ensemble, je ne vois pas pourquoi on oppose les deux. Parce que le « va vers toi » ou le « va quant à toi », eh bien, ouvre l'avenir et ouvre la suite du récit de l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce que c'est ? Il lui a fallu quitter tout, et particulièrement son père. Mais nous sommes tous invités à quitter nos parents, dès le début de la Bible d'ailleurs, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Pour être vraiment humain, on est invité à quitter, à être en rupture, en quelque sorte, avec ce qui nous précède. Ça ne veut pas dire qu'on leur claque la porte et qu'on ne les voit plus jamais. Il faut savoir faire une rupture. Et il va faire une première rupture avec Terah, son père. Il va le quitter. Mais le chemin d'Abraham n'est pas fini. Abraham va avoir d'autres ruptures à faire. Il va devoir quitter son nom, puisque Dieu lui donne un nouveau nom, donc une nouvelle identité, en quelque sorte pour marquer le fait qu'Abraham est parti. Et puis, il va devoir aussi quitter ces images d'un Dieu qui serait un père dominateur, un père qui l'enfermerait. Vous savez, c'est l'histoire qu'on nomme du sacrifice d'Abraham en Genèse 22. En Genèse 22, Abraham va devoir quitter l'image d'un Dieu qui lui voudrait en quelque sorte du mal. Il lui fait confiance dès le début, mais il ne sait pas vraiment qui il est. Il va savoir vraiment qui il est au moment où il accepte, eh bien, où il comprend que Dieu ne lui demande pas de sacrifier son fils, où il comprend que Dieu est un Dieu d'amour. Et là, la vraie fécondité va pouvoir advenir. Son fils, à lui, va pouvoir le quitter. Lorsqu'il comprend quelle est la paternité que Dieu nous offre, eh bien, Abraham va pouvoir s'offrir. Parce que c'est une histoire, évidemment, de fécondité. Et vous savez bien, lorsque l'on parle de fécondité dans la Bible, il ne s'agit pas que de descendance, il y a aussi toute la fécondité spirituelle. Lorsqu'on se dit enfant d'Abraham, je ne sais pas jusqu'où faire remonter mon arbre généalogique, j'en aurais bien du mal, il y a quand même quelques ruptures dedans, déjà au niveau de la 3e génération au-dessus du côté de ma mère. Donc, mais peu importe, j'imagine qu'Abraham n'est pas mon père. Et pourtant, symboliquement, il l'est. Donc, on voit la portée symbolique de tout cela aussi. Parce qu'Abraham va pouvoir partir, accepte de quitter, de lâcher son père, sa terre, eh bien, et sa femme va pouvoir enfanter. À eux deux, ils vont pouvoir être un vrai couple. D'ailleurs, il va falloir aussi qu'il lâche sa femme. Parce que tu sais, je ne sais pas, Sarah, tu t'appelles Sarah, mais Sarah, au moment où Abraham part, elle s'appelait Sarai. Ce qui veut dire « ma princesse », comme si Abraham se l'appropriait encore. Lorsqu'il appelait sa femme, il disait « ma princesse ». Et Dieu va changer son mot en disant « Sarah », c'est-à-dire tout simplement « princesse ». Il la reconnaît comme étant princesse, non pas à lui, mais princesse en elle-même. Et à partir de là, ils vont pouvoir concevoir des enfants, alors même qu'ils sont très âgés. Et à partir du moment où il accepte de lâcher Sarah, où lui, il a accepté d'être en rupture avec son père, être en rupture avec plein d'images mauvaises de Dieu, eh bien son fils, à lui, va pouvoir aussi avoir des enfants et la vie va pouvoir continuer. Il y a quelque chose de très important dans cette mise en marche, dans cette rupture. Et alors, ces pèlerins d'Emmaüs qui sont là, en chemin, et qui ne comprennent rien. Bon, à leur place, on n'aurait rien compris. mais ils ont encore assez de force pour, pas à pas, aller sur un chemin qui les éloigne de Jérusalem. Un chemin qui les amène vers Emmaüs. On ne sait pas trop où c'est d'ailleurs Emmaüs. Tout ce qu'on sait, c'est à 60 stades de Jérusalem. 60, ce n'est pas un très bon chiffre dans la vie, vous savez, dans la Bible. Vous savez, lorsqu'on dit le chiffre 6, c'est 7 moins 1. 7, c'est la plénitude. 6, c'est en général pas très bon signe. Donc ce village, eh ben, il est assez loin, éloigné de Dieu, en quelque sorte. Eh bien, ils s'éloignent, et puis Jésus s'approche. Mais ils sont tellement enfermés dans leur douleur, dans leurs histoires, dans ce qu'ils attendent de Jésus, qu'ils ne sont même pas capables de le reconnaître. Parce qu'ils attendaient quelque chose de lui. Mais ils sont en marche. Et là, pas à pas, Jésus va les enseigner, va leur parler. Tout comme plus tard, on parlera au premier étranger qui sera baptisé. Alors là, ça se passe sur un chariot, comme quoi on peut aussi être en chemin, pas forcément en marchant. On peut être en chemin sur une calèche, dans une voiture, après tout, pourquoi pas. Eh bien, ils sont en chemin. Ce chemin est indispensable. Ce chemin, va leur permettre de comprendre. Peut-être qu'aussi, ce qui leur fait comprendre, c'est la relation qu'ils lient avec un autre, avec Jésus qu'ils n'ont pas encore reconnu, et qu'ils vont reconnaître, et qui va disparaître au moment où ils le reconnaissent. Cette relation, parce qu'ils ne vont pas le laisser continuer un chemin, il fait nuit, c'est dangereux. Donc, eux, ils ont le souci de celui qui les a accompagnés. Et je pense que dans l'idée de pèlerinage aussi, il est très important d'avoir le souci des autres, le souci de celui qui nous accompagne. Il lui demande d'entrer et de partager un repas avec eux. Ainsi, le pèlerinage, c'est être étranger, mais aussi savoir accueillir l'étranger. C'est marcher ensemble, partager, parce que, en effet, le pèlerinage, c'est quelque chose qui peut être dangereux et qui peut faire souffrir. Et là, je rejoins finalement les pères de l'Église. Nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Nous sommes tous appelés à marcher ensemble et à accueillir l'autre lorsqu'il est dans la difficulté. C'est à ce moment-là qu'en effet, ils peuvent comprendre, avoir fait un bout de chemin ensemble, mais surtout, ne pas laisser tomber l'autre. Je pense que ça, c'est essentiel également dans cette histoire de pèlerinage. Et puis encore, une fois qu'ils ont cette bonne nouvelle, mais ils veulent la partager, de nouveau, ils sont envoyés vers les autres. Le pèlerinage, ce n'est pas faire le tour de vieux ossements. Non, le pèlerinage, c'est aller vers les autres pour leur porter la bonne nouvelle. Un peu comme à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus envoie ses disciples en disant « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le pèlerinage, c'est aller vers les autres. Évidemment, il y a un chemin intérieur à faire, indispensable. Mais ce chemin intérieur, on ne le fait pas que pour nous. Il faut le faire avant, pour nous, mais pour pouvoir aller vers les autres. D'ailleurs, l'annonce faite à Abraham ne concerne pas que lui. On nous dit qu'à travers lui, tout le monde sera béni. Je bénirai ceux qui te me diront. Et puis, c'est cela qui est important. L'annonce faite à Abraham, c'est également pour les autres. Ainsi, cette mise en marche, ce pèlerinage, n'aurait peut-être aucun intérêt s'il ne débouchait pas sur autre chose et surtout sur une manière de nous rendre solidaires des autres. Et j'aime cette image de personnes qui partent en randonnée, soit avec des enfants malades qui les portent et qui leur permettent de découvrir eh bien, autre chose. C'est peut-être ça aussi le vrai pèlerinage. Prendre quelqu'un avec moi et le faire avancer sur les pas de manière à la fois physique mais aussi spirituelle. Le pèlerinage, c'est peut-être ce à quoi nous nous sommes engagés envers toi, Sarah. C'est savoir accompagner ceux qui frappent à notre porte, savoir marcher avec eux et les mettre en marche. Alors oui, dans ce cas-là, j'aime non seulement marcher, randonner sur les routes de Corse, mais j'aime avant tout marcher avec mon prochain, avec Jésus-Christ à mes côtés. Des fois, je ne le vois pas, tout comme les pèlerins d'Emmaüs. Et puis, des fois, il se révèle quand vraiment je suis en harmonie avec mon prochain. Amen.